Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansemann.
Bonjour Valérie, comment allez-vous?
Bonjour, mais très bien, très bien.
Bah oui, moi je suis heureux d'être avec
juillet.
Vous. Mais oui, en plein mois de juillet. Tous ont vu le temps qu'il fait.
On est bien. C'est un peu la Toussaint.
Ouais, moi je préfère être au chaud avec vous.
Alors, Alain Carazé sera notre invité. Alain Carazé,
oui,
grand
là,
spécialiste des séries. Ben voilà, bonjour Alain Carazé.
Bonjour, comment ça va? Comment ça va Valérie? Bah, comment ça va Gilles?
Très bien, il fait un temps à regarder des séries, hein, à se mettre dans son canapé.
Si, alors, excusez-moi, pour moi, il fait toujours un temps à regarder les séries, ça
c'est
ne change pas, c'est un peu les vacances, donc je vais regarder les films plutôt que des séries. Mais bon, on va quand même parler.
On va parler du film Kaamelott, alors très attendu, hein, je crois que ça fait plus de 10 ans, presque 11 ans que ce film est en projet. Vous allez tout nous dire sur les coulisses de ce tournage, de ce film qui sort au cinéma le 21 juillet, c'est le premier volet, la série sur Paris Première et Sisplay, le premier volet est diffusé sur Paris Première et Sisplay. Vous avez consacré deux podcasts de Previously qui sont déjà en ligne, sur le site de Télé Loisirs et sur toutes les plateformes de podcasts. Vous allez nous en dire plus dans un petit moment, puis nous donner peut-être quelques conseils de séries à regarder cet été si ce temps pourri continue.
J'ai des trucs à vous conseiller.
Gilles, la question du jour.
C'est le grand spécialiste. La question du jour, elle est sur les séries, Valérie. On s'est demandé si les séries vont-elles tuer.
C'est bien.
Les séries vont-elles tuer le cinéma parce qu'évidemment,
ont-elles déjà
tué le cinéma parce qu'évidemment, Netflix, Amazon attirent énormément d'abonnés qui regardent les séries en binge drinking et du coup, on va un petit peu moins au cinéma.
Watching. Si vous buvez peut-être, en même temps.
Très clair, binge viewing.
Binge viewing. Et pour nos auditeurs, à 29%, c'est oui, et à 71%, c'est non. Non, et nos auditeurs veulent aller au cinéma. Et puis on pourra en parler à Alain Carazé. Il y a eu beaucoup d'adaptations de séries au cinéma, en passant de Mission Impossible au
Droit de
Dame.
Qui n'était pas toujours très réussi.
C'est pas toujours parfait. Quelquefois, on reprend simplement un titre. C'est souvent un programme marketing. C'est souvent, on reprend un titre qui est un peu connu. Vous avez très bien cité Mission Impossible, qui sont des films tout à fait honorables. C'est des grands films d'action. Sauf que ça n'a absolument rien à voir avec la série. Mais rien. Ça n'a aucun rapport avec la série.
Comme le Drôle de Dame aussi.
Drôle de Dame, c'est déjà un peu plus amusant.
Ils ont pris quelques libertés.
Le truc, c'est que les titres sont connus. Les titres, c'est du marketing, quoi. On prend un titre connu, quoi, et puis on met autre chose dessus. Pourquoi pas, si c'est réussi.
Pourquoi pas.
Mais ça n'a pas de rapport avec la série.
C'est souvent assez éloigné. Allez, Gilles, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Ça s'approche, Valérie. Le 23 juillet 2021, ce sera la cérémonie des Jeux Olympiques 2020. Et oui, Covid oblige, c'est les Jeux Olympiques de 2020 en 2021. La cérémonie où chaque pays arbore fièrement le drapeau. Et qui dit drapeau, dit porte-drapeau. Ils ont été révélés hier dans le 20h de France 2.
Allez, exclusivité France 2, ça y est, il est l'heure de découvrir les quatre visages, quatre noms des porte-drapeaux tricolores en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les voici donc à mes côtés ce soir, deux binômes mixtes et c'est inédit. Sandrine Martinet, Stéphane Oudé, Clarisse Agbenyonou et Samir Aït Saïd. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 2, nos quatre porte-drapeaux donc à Tokyo.
Et oui, et pour la première fois, vous avez vu, alors là même, dans les Jeux Olympiques, il y a de la parité. Vous pourrez en parler avec, peut-être, ce sera des coups de cœur ou des coups de gueule en deuxième partie, mais c'est fini, le porte-drapeau unique. Aujourd'hui, c'est la parité, c'est une première, hein, qu'il y ait un homme et une femme qui vont porter le drapeau ensemble. Aujourd'hui démarre aussi le Festival de Cannes, ça y est, en plein été, hein, c'est une première. Ce retour du Festival de Cannes met en joie les habitants de Cannes, qui a été interviewé par BFM.
Hier, l'affiche du Festival de Cannes a été installée tout en haut du Palais des Festivals. C'est un peu une cérémonie, c'est une tradition. C'est un peu le drapeau du festival qui est hissé. Le regard de Spike Lee sur le tapis rouge, très symbolique, parce que ça fait un an et demi qu'on l'attend, ce Festival de Cannes. Il est très attendu.
Ça fait un bien fou hein, de penser que ça a de nouveau lieu.
C'est bien aussi, ça donne un peu de gaieté, voilà.
C'est un moment qui compte dans l'année pour le cinéma en général et puis bah, pour la France aussi, puisque c'est avant tout la France qui reçoit et qui accueille les stars.
Voilà, là, monter des marches. Sur les marches, ils ont été autorisés à ne pas porter de masque pour monter les marches. C'est une précision.
Et ça va être diffusé à la télé, quelque part, la montée des marches, parce que comme il n'y a plus d'émission d'accès en direct.
Je crois que peut-être Canal, vous me posez une bonne question, ah ouais. Valérie.
Allez, je demande à nos fidèles auditeurs, Mickaël, Stéphane, qui sont là, qui réagissent. Est-ce qu'il y aura une montée des marches diffusées par Canal+ ? Je pense que oui, puisque Laurie Chelewa est...
Ah mais oui, mais il y a Dora Tillier, on devait recevoir Dora
Tillier.
Oui,
donc, mais je ne sais pas, effectivement. Voilà, on n'a pas la réponse.
En tout cas, je pense que ce soir, il y a la cérémonie d'ouverture, puisqu'on devait recevoir Dora Tillier, puis on a pas pu pour des histoires d'agenda. Donc, je pense qu'il y a des choses. Cannes qui fait la fête, donc Valérie, et le Touquet qui ressort les masques, y compris en extérieur. Le maire du Touquet a eu la bonne idée de se rendre sur CNews. Il était dans l'émission de Pascal Pro et vous allez voir, il a fait face à l'incompréhension de l'animateur.
Dans les stades de football à l'Euro, il est reconnu que, de fait qu'on a fait un peu tout et n'importe quoi dans certains endroits, il y a eu une reprise de l'épidémie. Aujourd'hui, une reprise de l'épidémie.
Mais bien sûr que non, c'est pas, ils se sont pas contaminés dans le stade, ils se sont contaminés.
Qu'est-ce que vous en savez?
Mais
monsieur le maire.
Bon alors fermez tout, monsieur Fasquelle. Fermez tout, mettez des masques partout. Je veux dire, c'est insupportable en fait. C'est qu'est-ce que vous en savez? Oui. Qu'est-ce que vous en savez? La vérité, c'est que nous le savons avec les scientifiques. Précisément, il n'y a pas de contamination.
Ah, du Pascal Pro, ça fait du bien de réentendre du Pascal Pro. Valérie, écoutez bien cette phrase. Même les culs de jatte donnent des coups de genou. Ah oui, ça ressemble à du Hugo, je suis d'accord avec vous. Alors, ce n'est pas du Hugo, vous savez ce que c'est ou pas, vous qui êtes une littéraire? C'est du Booba. Enfin, Valérie, hier, le rappeur a donné lieu à un documentaire sur BFM et on a découvert que des linguistes s'intéressent et se passionnent pour les punchlines du chanteur. Je suis très sérieux.
En 26 ans de carrière, il a écrit plus de 170 chansons qu'il a lui-même interprétées, presque deux fois plus qu'un artiste comme Jean-Jacques Goldman. Son œuvre est étudiée par des linguistes qui décortiquent ses punchlines.
Depuis les chaînes et les bateaux, je rame, t'inquiète. Aucune marque dans le dos, man. Je les ai dans le crâne. Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Je vais pas le comparer à Cyrano de Bergerac, mais c'est un peu ce personnage-là. C'est qu'il y a une jubilation. On entend dans son texte beaucoup de plaisir à dire ce qu'il dit.
Ça vous épate, ça, hein? Cyrano de Bergerac, Booba. Oh, ben, autre chose. Ah ouais, vous me surprenez, comme d'habitude.
Non, pourquoi pas?
Ah bon, vous écoutez du Booba?
J'écoute pas du Booba, mais je comprends qu'on puisse s'intéresser à cette forme d'écriture et que les linguistes s'y intéressent. Oui, ça m'étonne pas du tout.
On l'a appris hier, la mort d'un géant, mais discret, du cinéma. Richard Donner était réalisateur, entre autres, du premier Superman, et dont, évidemment, les Goonies. Ah, Alain Carazé veut parler. Je vous écoute, Alain. Réalisateur absolument de beaucoup de séries.
C'est très, très bien. Alors, écoutez, là, ça fait partie des conseils que je voulais vous donner pour l'été. Ah. De séries à voir. Parce que, en effet, Richard Donner est parti et on associe Richard Donner, à juste titre, hein, à ses grands films des années 80, des années 90, L'Arme fatale, le premier Superman, enfin le deuxième aussi, mais un autre l'a réalisé derrière, Lady Hawk, etc., etc. Des très grands films.
Les Goonies, je vais vous en parler après.
Des très grands films. Mais on l'associe beaucoup moins à sa, en France en tout cas, pas aux États-Unis parce qu'il est connu là-dessus, à sa carrière télévisuelle. C'est quand même un monsieur qui a réalisé énormément d'épisodes de séries télé, que ça va de Au nom de la loi, en passant par plein de séries
les
comme...
Les rues de San Francisco, je crois.
Les rues de San Francisco, La quatrième dimension. Et si justement cet été, vous avez quelque chose à faire, ou vous n'avez rien à faire justement, ça serait plutôt de regarder une vieille série qui s'appelle La quatrième dimension. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Mais bien sûr, mais oui.
Richard Donner a réalisé pas mal d'épisodes de Twilight Zone, dont un des plus fameux, qui s'appelle Cauchemar à 20 000 pieds, dans lequel, si vous vous souvenez un peu de l'histoire, c'est William Shatner, c'est un passager d'un avion,
Star Trek,
qui est paniqué parce qu'il est le seul à voir à travers le hublot une espèce de gremlins qui est sur l'aile de l'avion.
Ah.
Ça, c'est Richard Donner qui l'a réalisé, c'est dans les années 60. C'est un très, très grand monsieur. Autant au niveau cinéma, bien sûr, c'est de ça qu'on se souvient, mais aussi, et il ne faut pas le sous-estimer, au niveau série télé. Il avait donné sa première chance à Ian Michael Vincent dans un petit feuilleton de quelques minutes qui passait dans une série de dessins animés. Enfin voilà, si on veut faire sa filmo télé, c'est un très grand monsieur. Et cinéma, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, mais c'était il y a longtemps, époque de Torix, pour un film qu'il avait fait. Et il travaillait aussi pour la série de Spielberg, Amazing Stories, qui était un de ses producteurs. Donc, c'est un très grand monsieur, je suis bien d'accord.
Cédric nous dit, les Goonies, c'est juste génial, il faut absolument le faire découvrir aux nouvelles générations. Stéphane nous dit, il y a la trilogie Fear Street qui est fantastique. Donc voilà, les séries passionnent nos auditeurs.
Et justement, pour finir ce zapping, je voulais faire un petit Back in the 80s avec le générique, le titre original de la bande originale des Goonies, qui était interprété par qui, Alain Carazé? Années 80, elle avait une petite mèche rouge.
Tout à fait. Non, mais je vois très bien, là, j'ai plus.
Cyndi Lauper, écoutez. C'est bon. Et voilà, Cyndi Lauper, ça nous rappelle des choses.
Absolument.
C'était les Goonies, c'était le petit hommage à Richard Donner.
Absolument. Bah, merci Gilles pour ce zapping. On va parler de Kaamelott. Il y a Stéphane qui me dit que c'est ce soir à 19h sur Canal+, la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes.
Donc, elle est trop forte, notre communauté d'émissions médias.
Oui, oui. Alors, Mickaël me dit que ça n'intéresse pas du tout, ce que je peux comprendre. Moi, je suis mon petit coup de gueule, entre guillemets. C'est cette espèce de critique extatique devant un film de Léos Carax. Je vous conseille la critique ce matin.
Comme vous êtes cliché, Madame Valérie.
Je pense que c'est eux qui sont clichés. Voilà. Je pense que ce sont eux qui sont clichés parce que, voilà. Je vous conseille la critique ce matin dans le Figaro du film. C'est assez drôle. Kaamelott, les femmes de Kaamelott sont là depuis des années. C'est incroyable le succès de cette série qui continue dans le temps. Quand on a reçu Alexandra Astier, on a explosé nos scores de vues. Comment vous expliquez le succès déjà de la série avant de parler du film, donc qui arrive le 21 juillet en salle?
Ouais.
Alain Carazé.
Ouais, le succès de la série, c'est un cas d'école. C'est comment un auteur, Alexandre Astier, rentre dans une petite fenêtre laissée entrouverte sur une chaîne de télévision, sur des chaînes de télévision. Cette petite fenêtre, c'est ce qu'on appelle les shortcoms, c'est les programmes courts qui sont entre deux brouettes de pub. Vous savez, à 20h, donc en access prime time, là où les chaînes se font le plus d'argent. Et là où elles ont besoin de petits programmes courts pour renouveler l'intérêt, pour que les gens ne zappent pas entre les deux brouettes de pub. C'est un gars, une fille, c'est Caméra Café, etc., etc. Et il y en a encore de nos jours sur les grandes chaînes qui ont besoin de publicité pour vivre. Donc, c'est absolument crucial. Et pour susciter l'intérêt, il y a ces petits programmes courts. Et il y a Alexandre Astier, un auteur, qui a proposé un programme court, donc quelque chose qui doit faire rire pendant 2-3 minutes, parce que c'est ça Kaamelott pendant les 3 premières saisons, les 3 premiers livres. Il y a eu plusieurs pilotes de tournée avec Alt Productions. Et puis, quelque part, c'est passé au-delà des fourches codines, à savoir que, étant donné que ça ne dépendait pas du département fiction, il n'y avait pas besoin de tracer des arcs narratifs, il n'y avait pas besoin de proposer plein d'épisodes en amont, il n'y avait pas besoin de proposer des dialogues, il n'y avait pas besoin d'avoir des validations, etc.
Ça veut dire qu'elles ne sont pas très contrôlées, ces séries, parce qu'elles ne dépendent
exactement.
Pas de la fiction.
Il y avait une forme de liberté.
Ouais.
Tout à fait.
Ah,
et incroyable. Comme toute forme de liberté à la télévision, à partir du moment où vous avez une petite fenêtre de liberté, vous avez des auteurs qui peuvent s'engouffrer dans cette fenêtre pour faire autre chose. Donc, ouais. Alexandre a réussi à faire, on va dire, une petite série comique au départ, qui était à mi-chemin entre un film comique, Les Tuches, etc., mais qui se passait au sein des Chevaliers de la Table Ronde, du roi Merlin, du roi Arthur, de Merlin, et ainsi de suite, avec un côté humour contemporain, les dialogues à la Audiard, et ainsi de suite. Donc, c'était un petit peu comme les Monty Python, même si lui s'en défend. Mais enfin, c'est quand même un humour assez british, assez décalé. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est quelque chose de très réaliste, en termes de structure, à savoir que les décors, par exemple, il n'y avait pas d'anachronisme, c'était très recherché, la table ronde, les décors, etc. Tout ça était très clair, et c'est au milieu de ces décors que ça dérape. Au milieu de ces décors qu'il y a, en fait, Chevaliers de la Table Ronde qui sont des abrutis, ou qui sont simplement un peu des enfants, qui ont des réactions un peu enfantines, un peu naïves, qui jouent à des jurys rigolos, etc. etc. ça, ça a été pendant les 2-3 premières saisons. Donc, c'était rigolo à voir. Moi, je sais, quand j'ai rencontré Alexandre la première fois, bon, bah voilà, j'ai trouvé ça rigolo, mais sans plus, quoi. Et petit à petit, Alexandre a profité de son succès, parce que quand même, saison après saison, on lui demandait 100 épisodes, 100 épisodes, 100 épisodes, etc., pour faire un peu autre chose. D'abord, il a réussi à feuilletonner l'histoire. Il y a eu l'histoire de Lancelot qui s'éprend de la reine, chose qui est secrète, et du roi Arthur qui s'éprend de la femme d'un de ses chevaliers, etc. etc.
On est passé de sketch à des histoires, en fait. On est passé de sketch à quelque chose de plus construit et de plus écrit.
C'est exactement ça. Les sketchs qui faisaient 3 minutes, on commençait à faire 7 minutes. Puis, dans les DVD, c'était rassemblé pour faire des programmes de 52 minutes. Ouais. La dernière saison faisait 52 minutes, des épisodes de 52 minutes. Il y a eu une saison entière dans laquelle c'était plus drôle du tout, parce que quelque part, ça reflétait l'état d'esprit d'Alexandre Astier à l'époque. C'était une introspection sur le roi Arthur, sa descendance, etc., etc. Et ça, c'est ça qui a fait que la série est passée au-delà de simplement de la petite série de distraction, et c'est devenu véritablement un truc culte. Pour les fans.
Alors parlez-nous du film, parce qu'il faut qu'on ait le temps d'en dire quelques mots. Ce film qui a mis effectivement beaucoup de temps à se concrétiser, il est enfin à l'affiche.
Ça a mis une dizaine d'années à se concrétiser pour des raisons financières, parce que c'est pas évident en France de financer un film qui soit un film d'heroic fantasy, enfin en tout cas un film en costume, même si ça repose sur le terme de Camelot, c'est pas évident. Il y a eu aussi des problèmes de droit avec la société Calte, etc. Bon, bref, Alexandre a tout réglé, mais Alexandre est quelqu'un de très opiniâtre. Hein. Quand il a quelque chose en tête, ça prendra le temps, mais il le fait. Alors, le film, je ne vais pas vous spoiler.
Mais est-ce que c'est bien ?
Est-ce que c'est réussi ?
C'est formidable.
Voilà.
Mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai film. Ce n'est pas du tout un copier-coller de la série. Ce n'est pas du tout un « tiens, on va refaire quelques sketchs de la série, on les met bout à bout et ça va faire un long-métrage ». Absolument pas. C'est un vrai film, c'est un film d'aventure épique. C'est un film dans lequel vous pouvez rentrer, même si vous n'avez pas vu la série, et c'est encore heureux parce que s'il faut que vous ayez vu les 450 épisodes avant, ça commence à être un peu pénible. Donc, quelque part, c'est un film facile d'accès et c'est un film qui mélange de façon beaucoup plus harmonieuse que dans la série, puisque je vous parlais tout à l'heure des épisodes qui sont très dramatiques. Là, c'est beaucoup plus harmonieux. L'humour décalé des personnages avec leur situation et le côté un peu épique. Grosso modo, c'est un film qui se passe dans une Bretagne dans laquelle Arthur est parti depuis pas mal d'années, depuis 10 ans. Arthur n'est plus roi, il a remplacé Excalibur dans son rocher. Maintenant, la Bretagne
est
entre
les mains. Oui, sur le cast, pardon, je vous ai interrompu, sur le cast, qui va être Arthur ?
Ah ben c'est toujours Alexandre Astier.
C'est toujours Alexandre Astier.
Il n'est pas, enfin au départ il n'est pas là, il est loin.
Il a disparu.
Il a disparu, on le cherche, tout le monde le cherche, surtout Lancelot, qui est maintenant à la tête de Camelot. C'est lui qui dirige d'une main de fer et de façon un petit peu, on va dire, pas très très agréable, le pays. Et Arthur n'a absolument aucune envie de revenir. Il est dans son coin, personne ne sait où il est. Il n'a absolument aucune envie de revenir. Les circonstances vont faire qu'il va devoir revenir. Et en revenant, il va devoir reprendre un peu les choses en main. Mais je ne vous en dis pas plus.
Alors ce qu'on peut dire également, Valérie, c'est qu'il y a des guests incroyables. Pour jouer, par exemple, un des Saxons, un anglophile, il y a Sting dans le film.
Alors, Gilles, je ne veux pas vous spoiler le film, mais ce n'est pas un guest.
Ah, il joue vraiment, il a un vrai rôle, c'est ça ?
Voilà.
Alors, il y a qui dans les guests, justement, dans les invités, dans ceux qui...
Il y a Clovis Cornillac, il y a
Guillaume Gallienne.
Guillaume Gallienne, Christian Clavier, qui était déjà dans la série, mais là, qui revient et qui a un rôle très important, qui est formidable dans le film. On dit souvent Christian Clavier, c'est un peu des films, il est vraiment formidable dans le film.
Il y a Alain Chabat.
Il y a Antoine Decaune.
Alain Chabat.
Absolument, Alain Chabat. Qui avait déjà un tout petit rôle dans la série, mais là, qui est vraiment formidable aussi dans le film, un rôle absolument crucial. Bref, tous sont là. Les acteurs de la série reviennent, pour la plupart, les acteurs principaux.
Il faut dire qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont été lancés par cette série aussi.
J'en ai pas réellement en tête. Il y a toute la famille d'Astier. Il y a entre autres Lionel Astier, qu'on voit maintenant dans pas mal de séries sur TF1. Ou sur France 3 qui a tenu un grand rôle et qui tient toujours un grand rôle dans la série, on retrouve toujours un peu les mêmes acteurs. Il y a Franck Pillot, il y a Jean-Christophe Humbert, etc.
Valérie, Oui. Et pour vous donner une petite idée des dialogues et autres, voici les 30 secondes, parce que la bande-annonce est très longue, hein, avec beaucoup de batailles épiques et autres, mais on vous a mis avec le réalisateur 30 secondes de dialogue de la bande-annonce, et ça donne bien une idée du film. Les voici.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Oh, ça me dit rien.
10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous.
Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu.
Partout les seins.
Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever.
Ah, seigneur Lancelot.
Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties.
Bravo, alors c'est très constructif.
La résistance, ça vous dit quelque chose?
Allez, en piste.
Allez, en piste, voilà. Ce sera au mois de juillet.
C'est vraiment ça, le film. Le film est vraiment...
Ah, merci,
d'abord,
Alain.
C'est un grand... c'est vraiment ça. Le film, c'est un grand film d'aventure avec des moments comiques. Alexandre, dans une interview, me disait, il y a longtemps, il ne fait pas une série comique, il ne fait pas un film comique. Il fait un film avec un thème, avec une aventure. C'est comme quand vous faites livrer une pizza. Vous avez la pizza, mais quelque part, si vous êtes bon client, vous avez aussi le litre de Coca-Cola et de Pepsi-Cola. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre. Et le Pepsi-Cola, c'est l'humour. Donc l'humour, il vient en plus. Mais le fond du truc, c'est quand même la pizza. Ce que vous avez commandé, c'est de la pizza. Si vous allez voir le film Kaamelott, et il faut le voir parce que c'est un grand film épique, ben, vous allez voir une grande aventure épique. Le début d'une trilogie.
Rapidement, Alain, deux, trois séries à regarder cet été, incontournables.
Alors, cet été, ce qu'il faut regarder, c'est il faut regarder Zoé's Incredible Playlist. C'est cette série qui est sur Warner Télé, qui est une série pétillante, amusante. Et malheureusement, c'est la dernière saison d'une jeune fille qui, suite à un accident, voit des gens chanter et danser dans sa tête et qui représente les pulsions des gens, enfin, les pensées des gens. Elle est en télépathie avec des gens. C'est une série absolument formidable. C'est sur Warner Télé. Il y a Prodigal Son. La série qui repart sur TF1, c'est le 14 juillet avec sa saison 2, dernière saison pour les Goldson. C'est une série dans laquelle un jeune homme qui est profiler doit aussi faire face à son héritage, lui aussi, qui est que son père est un serial killer. Moi, je voulais en troisième chose vous dire la quatrième dimension à cause de Richard Donner. Mais puisqu'on en a parlé tout à l'heure, moi, je vous dis que à la rentrée, Valérie, à la rentrée, il y a quand même la nouvelle saison de La Casa des Papels, quoi.
Ah, bah, j'espère qu'elle sera...
Même si j'aime pas la série,
bah,
quelque part.
Vous aimez pas la série, bah, qu'est-ce que vous prend?
Oui, mais il y a beaucoup de fans, il y a une grosse communauté aussi, comme pour Kaamelott. Donc le film Kaamelott...
Ça va pas bien, là
Kaamelott sort...
La Casa des Papels, c'est clair.
Le film sort le mercredi 21 juillet. S'il fait ce temps-là, effectivement, comme nous dit une auditrice, elle va se refaire l'île fantastique, l'intégrale de l'île fantastique.
C'est drôle.
Mais aller au cinéma... Les cinémas en ont besoin. Le film est très bon, d'après Alain Carazé.
Très, très
donc on vous croit sur parole. Merci Alain Carazé. Dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio avec vous. Restez avec nous.